Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus dans le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une émission en direct et je vous propose de conclure aujourd'hui notre volet pèlerinage en Terre Sainte à Jérusalem en mettant nos pas dans ceux de pèlerins de la fin du XIVe siècle avec le beau roman de Paul Amblard intitulé Aube de Jérusalem qui est publié chez Salvator. Et puis nous suivrons aussi l'aventure pèlerinage extraordinairement humaine qu'a réalisée Aliénor Vidal de la Blache en 2017 et qu'elle relate avec ferveur et vérité dans son récit Seul à pied vers Jérusalem, édité donc également chez nos amis de Salvator, dans la collection Chemin d'étoiles, cette très jolie collection. Alors bonjour à toutes, bonjour Paul, bonjour Aliénor, merci
beaucoup. Bonjour. Bonjour Pascal, très heureuse de vous retrouver.
Écoutez également, et très heureuse Aliénor de vous avoir à notre micro toutes les deux, alors deux femmes aujourd'hui pour évoquer Jérusalem et pour évoquer le chemin. Et je précise que Paul donc, est dans le studio, mais que malheureusement vous, Aliénor, vous habitez loin, donc vous n'avez pas pu vous déplacer, on le comprend bien, mais grâce à la magie des ondes, eh bien, nous allons converser toutes les trois pendant cette heure et demie. Alors Paul Amblard, vous êtes déjà une fidèle invitée déjà de cette émission et je m'en réjouis, mais vous êtes surtout historienne de l'art, spécialisée dans le Moyen-Âge, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont Un pèlerinage intérieur, L'Apocalypse de Saint-Jean illustré par la tapisserie d'Angers chez Diane de Cellier, magnifique ouvrage, et puis surtout pour ce qui nous concerne, hein, Les Enfants de Notre-Dame, également La Chambre de l'âme et Notre-Dame de Paris, les symboles des pierres. Donc, trois ouvrages que vous étiez venus nous présenter. Et pour notre plus grand plaisir, je dois le dire. Aliénor Vidal de la Blache, vous travaillez depuis 15 ans dans le monde associatif. Vous êtes passionnée par la marche et par la montagne. Vous êtes également auteur, puisque vous avez coécrit le livre « L'espoir au féminin » à la suite de votre premier voyage en Amérique latine. Et puis surtout, avec ce premier ouvrage que vous nous proposez aujourd'hui, entièrement écrit de votre main. Alors nous allons voir avec vous, mesdames, ce qui motive cet appel finalement très fort hein, vers Jérusalem. Quelles en sont là ou les quêtes? Que va-t-on y chercher réellement et trouve-t-on réellement aussi quelque chose? Donc nous verrons, ça c'est intéressant aussi hein, durant la préparation de l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens entre vos deux ouvrages, que l'un était l'écho de l'autre, parce que peut-être aussi vous parlez bien sûr des joies, de la beauté, des épreuves, du tout ce qui est dépouillement, rencontre et abandon à la providence hein, que propose le chemin. Alors, commençons sans plus tarder, mettons nos pas, chers auditeurs, dans ceux des hommes et des femmes du Moyen-Âge, donc de cette fin du XIVe siècle, qui allait en Terre Sainte, donc avec vous, Paul Amblard, et votre roman intitulé donc « Aube de Jérusalem » édité chez Salvator. Alors, je voulais vous demander, parce qu'après le succès de votre premier roman, Les Enfants de Notre-Dame, publié donc en 2021, après le Covid, et puis bien sûr après aussi l'incendie de Notre-Dame, donc c'était un livre aussi qui nous concernait particulièrement. Vous nous proposez la suite des aventures de vos personnages. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé cinq ans après d'écrire la suite?
Écrire la suite, on m'y a poussé en fait.
Ah voilà.
On m'y a poussé. En fait, les personnages avaient suffisamment de force. Je pense les gens s'y étaient attachés. Et moi, j'ai eu des amis parce que dans le premier roman, c'est une grande fresque qui se passe à Paris.
On peut peut-être rappeler
oui,
en quelques mots l'intrigue.
Alors l'intrigue, ça se passe donc uniquement à Paris. C'est le milieu des artisans. Tout est autour de Notre-Dame, qui était le cœur de la ville. Et là, on suit trois héros, trois jeunes héros, qui vont avoir leur destin tout à fait contrarié par les événements. L'un veut devenir herboriste, il pensera être devenu un homme définitivement damné parce que peut-être meurtrier. Vous voyez, je mets plein de points d'interrogation. Et du coup, son destin est tout à fait contrarié pendant un certain temps, mais le rattrape parce que sa nature n'est pas d'être un larron. Faisant partie de la cour des miracles. Un autre est teinturier, un teinturier de bleu, Et
on retrouve l'importance des couleurs chez vous, hein, historienne de l'art.
Mais au Moyen Âge, on ne peut pas marcher dans la rue sans se soucier de la couleur, parce qu'elle est omniprésente. Bon, il faut rappeler quand même que toute la façade de Notre-Dame était peinte de couleurs extrêmement colorées. Aujourd'hui, ça nous semblerait peut-être un peu criard, tellement c'était vif. Mais au Moyen Âge, la saturation de la couleur est très importante. C'est un signe de vie, c'est un signe de richesse, d'opulence. Et on mettait beaucoup de couleurs dans la vie. Et je pense que c'était peut-être un héritage biblique, puisque on revient à Jérusalem, mais la Jérusalem céleste, elle brille de mille feux colorés. Et il fallait toujours reproduire ces couleurs-là de la Jérusalem et les exposer. Et voilà, donc il y avait le teinturier de bleu, qui était un deuxième personnage, et il y avait le personnage féminin, qui était une petite jeune femme qui se cherchait, qui était Agathe, et qui va devenir, elle va enluminer des manuscrits. Et donc, ces trois héros avaient des destins communs. Il y avait vraiment beaucoup d'aventures. Et moi, j'ai eu certains lecteurs qui m'ont même, et des amis, avec qui j'ai cru me fâcher, parce qu'il y avait un de leurs héros qui était en mauvaise posture, ou même qui mourait. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Rémi, que je salue, et qui m'a dit « Mais comment as-tu pu faire mourir cet homme ?» Ce n'est pas possible. Alors, il y avait un attachement fort. Et l'éditeur, de son côté, m'a fait la même demande, et la suite. Donc, on était resté sur une histoire d'amour entre un des jeunes qui s'appelle Eliezer et Agathe, qui sortait de la peste, qui avait été guérie par cet Eliezer qui était devenu médecin. Et voilà, donc, on attendait la suite. Et la suite, j'ai voulu un grand voyage. J'ai voulu faire voyager le lecteur à travers à la fois des espaces naturels et puis des villes emblématiques de cette époque. Alors, on va voyager dans la Bourgogne, mais aussi on va aller jusqu'à Venise et on va à Jérusalem. Et pour moi, cet aboutissement de Jérusalem, c'était, vous savez, sur les cartes géographiques de l'époque, c'est au cœur des cartes, Jérusalem. Ah oui. Donc,
c'est très, très symbolique, là encore. Alors, je montre votre ouvrage, donc Aube de Jérusalem. Et j'en profite pour que l'on évoque un peu la page de couverture qui représente une enluminure.
Oui, de la ville de Jérusalem, du 15e siècle.
Très belle, hein, d'ailleurs.
Et, oui, très belle, mais très, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec Jérusalem. Par contre, il y a beaucoup de symboles dans cette image. D'abord, la ville est bleue. Et elle scintille d'or. Et voilà, donc tous les toits sont dorés. Et la ville bleue rappelle le ciel. Et donc, ça me semblait une bonne idée de mettre cette enluminure à peu près de la même époque.
Vous qui aimez aussi, bien entendu, l'image et les enluminures, puisqu'on retrouve aussi dans pas mal de vos ouvrages ce thème-là, l'importance de l'enluminure. Alors, revenons donc à cette aube de Jérusalem. Donc, vous nous faites voyager, effectivement. Ça, c'est vraiment la grande nouveauté par rapport au premier roman. Je dois dire qu'il est très abouti. On sent votre maîtrise, vraiment, maintenant, des romans. Et d'ailleurs, j'ajoute ma petite note, mais on attendrait bien un troisième. Peut-être pas la suite de celui-là, ou peut-être que si, je ne sais pas.
Alors, ça dépendra des demandes.
Ça dépendra des demandes.
Moi, je veux bien.
Mais vous avez aussi un talent certain, pas que pour les essais. Et donc, pour revenir à cet ouvrage, c'est l'histoire d'un grand voyage au Moyen Âge, mais c'est aussi l'histoire d'une quête.
Oui, c'est l'histoire d'une quête parce qu'Agathe, on retrouve Agathe, et elle a eu une petite fille qu'elle a envoyée en Bourgogne, à la campagne, très loin de Paris, pour la protéger de la peste. Et quelques années après, à la fin de l'épidémie, quelques mois après, elle essaye de retrouver sa fille et elle a disparu. Elle a disparu avec sa nourrice et un vieil homme qui s'appelle Samuel, qui est un herboriste. Et donc, elle se dit, ma fille est perdue, je ne sais pas où elle est, on n'avait pas les moyens de communication de l'époque.
Bien sûr.
Et du coup, elle essaye en vain de la trouver. Elle ne la trouve pas. Mais par une circonstance du destin, il va y avoir une femme qui est un personnage très important déjà dans Les Enfants de Notre-Dame.
On peut en parler.
Oui, on peut en parler. Qui se nomme Aurore, qui elle était une femme un peu perdue, une sorte de Marie-Madeleine, qui faisait partie de la cour des miracles et qui devient une femme rachetée, une femme ermite, que vous savez, les ermites étaient des gens qui étaient extrêmement sollicités. Ils avaient beau vivre dans des tours ou dans des lieux retirés, les gens venaient les consulter pour leur sagesse. Et au cimetière des Innocents, il y avait des tourelles où il y avait des ermites. Alors, on connaît très bien l'histoire d'ermites, comme Alix la Burgotte, qui va vivre 46 ans dans sa tour. On lui portait à manger, on lui portait quelques vêtements, on lui portait du feu pour qu'elle puisse se chauffer l'hiver, mais elle était consultée pour ses conseils. Et donc, moi, j'ai créé le personnage d'Aurore, qui est ermite, et qui voit, elle va sortir de sa situation d'ermite par un coup du sort. Et elle va pousser Agathe, donc cette mère, en quête de sa fille, à entreprendre le voyage. Mais le voyage vers où ?
Oui.
Et puis, quelle apparence a sa fille, puisque 10 ans sont passés ? Donc, c'est devenu comme une petite jeune femme.
Alors, il y a un indice quand même.
Elle
lui avait mis autour du cou un pendentif.
C'est ça. Elle lui avait mis son pendentif.
Et, rouge. Un rubis. Hein.
Alors, un rubis. Mais c'est le seul indice. Il est très maigre.
Il est très maigre, effectivement.
Et pourtant, l'ermite dit, il faut se lancer dans ce voyage. Et ils vont être 5 personnages à se lancer dans cette aventure folle.
Oui.
Cette quête folle. À la fois de cette petite fille qui s'appelle Aube, et ça va les mener de pas en pas, de rencontre en rencontre, jusqu'à Jérusalem.
Alors, c'est vrai que c'est très beau parce que cette mère part à la recherche de sa fille, et on voit là l'importance aussi de l'intuition et de l'amour maternel. Ça, je trouve que ça ressort très très bien dans votre roman. Et puis, on voit aussi comment Aube, donc sa fille de 13 ans maintenant, l'attend finalement. Elle ne pense pas que c'est terminé, qu'elle ne la reverra jamais. Et ça, c'est assez frappant dès le début. On sent qu'elle sait aussi, elle a son intuition peut-être aussi de fille. Alors Aube, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu, oui. Puisque donc sa seule attache avec ce passé, vous l'avez signifié, hein, cette Herméline, sa gouvernante, et Samuel, donc ce savant qui l'accompagne à Jérusalem. Et il y a, elle va découvrir, donc à 3 ans, elle va découvrir l'Orient. Et là, je vous cite, « La petite fille que j'étais, avec sa peau de lait, découvrait l'Orient. Ce fut la seule conquête dont je me souviens, la mienne. » La chaleur, les parfums des grappes de jasmin, les voix fortes, les couleurs des agrumes, les visages foncés, les mains râpées par le soleil qui s'ouvrait ou se fermait sur mon passage, m'entraînaient dans cet autre monde qui devint le mien. Mes yeux n'étaient pas assez grands pour m'étonner des remparts avec leurs nombreuses tours saignant la ville, de la vie sur les toits, en haut des maisons, des habitants, mamelouks, turcs, éthiopiens, abyssins, nubiens, arméniens, grecs, syriens, géorgiens, italiens, francs. Mes yeux étaient avides de tout ce nouveau monde composite, tourmenté ou alangui sur cette terre trop cuite qui brûlait les têtes et les corps. »
Oui, alors Aube, effectivement, attend sa mère, mais elle est profondément devenue une fille d'Orient. Et éduquée par ce vieux savant, c'est-à-dire qu'elle va devenir lettrée, femme lettrée, mais profondément attachée à Jérusalem, qu'elle connaît depuis l'enfance, et elle fait connaissance de Jérusalem avec une rencontre qui est le Saint-Sépulcre. Et là, elle est fascinée, petite fille, elle est fascinée par toute cette ambiance, ces hommes priants, et puis elle découvre tout un monde qu'elle ne connaissait pas avant et qu'il adopte.
Alors, il faut préciser qu'à cette époque, donc à la fin du XIVe siècle, oui. Jérusalem était sous le joug, j'allais dire, des Mamelouks.
Oui, c'est le sultanat Mamelouk, et ça va durer 7 siècles, hein, les Mamelouks. Donc, ils sont là depuis le XIIIe siècle, le milieu du XIIIe siècle. Et donc, c'est une période difficile. Il y a eu des périodes plus faciles à Jérusalem, où les pèlerins étaient tout à fait acceptés. Bon, il y a eu tout le temps des croisades, et où les Francs étaient dominaient Jérusalem. Après, évidemment, il y a eu des dynasties. Alors, il y a eu des Ayoubides, il y a eu voilà des Séloukides, oui. Voilà des musulmans. Il y a eu Saladin. Et du coup, là, les pèlerins étaient acceptés, mais ça s'est durci. Vous savez qu'en fait, les chemins de croix de nos églises,
oui.
Dans tout l'Occident, ça date, en fait, l'origine,
oui.
c'est le chemin de croix qu'on faisait à Jérusalem. À partir du moment où les franciscains n'ont plus pu organiser de processions et de pèlerinages, mmh. alors on a mis ces rappels d'images peintes dans les églises, peintes ou sculptées.
Donc ça date du Moyen-Âge ?
Ça date du Moyen-Âge.
Ah, mais vous êtes formidable. Avec vous, Paul Amblard, on apprend toujours énormément de choses. Je ne sais pas si vous le saviez, Aliénor.
Pardon, j'avais coupé le son pour pas qu'on entende mon ventilateur et non, je ne savais pas.
On ne l'entend pas, Aliénor, c'est bon. Oui, vous ne le saviez pas, ça non plus. Ouais.
Et je ne savais pas. Je savais qu'il y avait un chemin de croix à Jérusalem, mais je ne savais pas que l'origine de nos chemins de croix dans les églises est venue de là-bas.
Oui, et du coup, c'est vraiment intéressant parce que le chemin de croix, c'est comme un voyage. Et parce qu'il y a quand même cette idée de marche, de voyage, de perte de repères. Mais ça, je pense qu'Aliénor va en parler merveilleusement.
Ah, ça, oui. Ça, je le pense aussi. Mais peut-être tout à l'heure, on vous donnera la parole un petit pour ce sujet-là, en tout cas, un petit peu plus amplement. Je voudrais revenir, toutes les deux, peut-être aussi sur la situation au fin XIVe siècle. Donc, les Mamelouks sont là, dominent. Donc, les chrétiens, les juifs sont tolérés. Ils payent ce qu'on appelle la dhimmitude, entre autres. Hein. Oui. Il y a des signes distinctifs aussi qui doivent être portés.
Oui,
ça, c'est important.
Dans les turbans.
Dans les turbans.
Notamment.
Ouais.
Le turban jaune pour les juifs. Mmh. Le turban bleu pour les chrétiens et le blanc pour les musulmans. Enfin, eux n'étaient pas obligés, évidemment, et ils n'avaient pas besoin de signes distinctifs, c'était l'habit. Oui, alors la dhimmitude, c'est très important et ce qui est important, c'est de connaître le prix. Parce que quand on débarque à Jaffa oui. pour aller à Jérusalem après, quand on est pèlerin, eh ben, on paye deux gros.
Et ça fait, ouais.
Alors deux gros. C'est entre 700 et 13 000 euros.
Ah, tout de même.
Donc, c'est intéressant de savoir que ce péage, pour rester à Jérusalem, il était quand même une somme très importante. Et ce qui permettait après aux pèlerins, en se tenant quand même à carreau, fallait pas trop faire de vagues, de circuler à Jérusalem. Et tout ça sous le contrôle des franciscains aussi, qui organisaient tous les pèlerinages.
Voilà, avec un rôle très très important,
important.
Qu'ils avaient. Et donc, Jérusalem à cette époque, c'est une ville aussi, donc vous l'avez dit, d'érudits, mais à contrario, c'est une ville pauvre.
Oui, au XIVe siècle, Jérusalem est une ville complètement atone économiquement. Par contre, c'est une ville extrêmement cultivée d'érudits. D'érudits à tout niveau, il y a beaucoup d'écoles religieuses, il y a des madrassas pour les musulmans, mais il y a aussi les juifs qui sont là et qui ont leurs écoles. Et puis, il y a les chrétiens qui apprennent aussi. En fait, vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais souvent à Jérusalem parce que je travaillais pour un petit musée sur Marie. Et on m'avait demandé d'écrire un parcours de musée. Et donc, j'étais tous les deux mois à Jérusalem. Mais je trouve que, alors c'est peut-être plus prospère économiquement aujourd'hui, et je ne parle pas de la situation politique désastreuse en ce moment, mais ce que j'avais noté, c'est que les gens là-bas, les religieux, ou non religieux d'ailleurs, les pèlerins qui étaient là pour apprendre. Et donc il y avait toute l'école biblique de Jérusalem, mais il y avait cette espèce de recherche, de traces religieuses pour les uns et pour les autres d'ailleurs. Et c'était très flagrant, ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait une sorte d'émulation. Et je pense qu'au XIVe siècle, il y avait cet aspect-là des choses, avec quand même un joug mamelouk qui était imposant. Et encore une fois, fallait pas trop faire de vagues quand on était chrétien.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et quant à ce climat particulier de Jérusalem, vous, Aliénor, donc vous êtes allée, on va en parler, hein, mais donc en 2017, donc avant bien sûr les derniers événements que l'on connaît, c'était un peu plus tranquille, on va dire, mais quand même, vous aviez été, si je vous ai bien lu, vous avez quand même été mal à l'aise par rapport à cette ambiance que vous sentiez d'hostilité sous-jacente.
Oui, alors je ferai la différence entre la façon dont m'ont accueilli les Israéliens. C'était très chaleureux, très facile. J'ai senti qu'il y avait une, enfin, en tout cas moi, à ma petite échelle, une culture de l'accueil et de l'hospitalité assez forte. Souvent, je marchais dans les rues, on me parlait, on m'accueillait. Donc voilà, je ferai cette distinction-là d'une chaleur relationnelle étonnante. Et en revanche, une situation politique, moi j'ai trouvé ça très dur. Je ne voulais pas marcher qu'en Israël, donc j'ai marché aussi en Cisjordanie. J'ai dû changer mon itinéraire à la dernière minute parce que donc, c'était en fin 2017, c'est à l'époque où Trump annonçait le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et c'est, voilà, donc c'était le bazar la veille de mon départ. Parce qu'en fait, je suis allée jusqu'au lac de Tibériade à pied et la veille de mon départ, il y a eu des tirs de roquettes toute la nuit. Donc c'est une ambiance compliquée et la vallée du Jourdain, j'avais pas pris conscience à quel point en fait c'est colonisé là-bas. Moi je me disais je serais en Palestine, mais non. Enfin voilà, j'ai trouvé ça moralement très difficile. Je pense que je connaissais tout ça bien sûr, mais de loin et d'y être confrontée, c'est ultra militarisé là-bas. Je pouvais pas parler. Enfin déjà je voyais que des hommes dans des voitures dans les rues. La plupart étaient armés. Voilà le franchissement du checkpoint au nord de la Palestine, enfin de la Cisjordanie, c'était compliqué.
On l'a vu avec Alexandre Jansou la fois dernière, voilà, lors de la dernière émission. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai eu l'occasion récemment d'écouter Monseigneur Pizzabella, donc le patriarche de Jérusalem, qui disait que la violence, pour lui aujourd'hui, eh bien, semble être devenue le premier langage en Terre Sainte. Donc ça fait un petit peu.
Oui,
réfléchir.
Ça se durcit.
Ça se durcit beaucoup.
Ça se durcit dès qu'il y a des conflits. Politique très marquée comme on le vit aujourd'hui, ça se durcit très rapidement. Et moi, quand j'y étais, il y avait eu des attentats. Et c'est vrai que ça crée tout de suite dans la ville une atmosphère extrêmement tendue où chacun se regarde et où il ne faut pas trop traîner dans les rues. Et c'est vrai que les soldats patrouillent. Et c'est vrai que ça surprend au début. De voir ces militaires patrouiller partout à Jérusalem. Nous, on n'est pas du tout habitués vivant en France.
Puis là, c'est vraiment c'est un état de guerre aussi mini. Alors revenons à notre Moyen Âge. Ça sera quand même plus enrichissant, on va dire. Voilà. Je voulais vous demander en fait, Paul, pourquoi cet intérêt pour la fin du XIVe siècle. Et puis j'en profiterai pour vous demander quand même quel est le contexte en France lors de ce second roman.
Oui. Alors, mon intérêt pour le XIVe siècle, je pense qu'il est... vous savez, il faut se laisser des fois guider dans la vie, se conduire, parce qu'on a tous un chemin de vie. Alors, on peut partir sur les routes, mais je pense que la vie, c'est une route. Et donc, des fois, on est guidé. Et moi, j'ai découvert... il y a bien des années, oh là, ça remonte très très loin.
N'exagérez pas, Paul.
Mon premier travail, je dirais, d'importance, ça a été de travailler sur un manuscrit du XIVe siècle, qui a été donc écrit à une période catastrophique de l'histoire de France, où il y avait la guerre de Cent Ans, il y avait la peste, il y avait les mauvaises récoltes, qui fait que les gens à la fois avaient faim, mouraient d'épidémie, ou sous les coups des soldats anglais. Et donc, dans cette situation catastrophique, il y a parce que les gens étaient terrifiés, ils voyaient l'antéchrist à longueur de temps, et ils se disaient, c'est la fin du monde. Ça nous est arrivé aussi à nous, hein. Je me souviens, en l'an 2000, il y avait beaucoup de rumeurs. Ça y est,
le changement de siècle.
On allait...
Mais là, c'était pas fondé. C'était juste une peur, en fait.
Non, non, c'est vrai. Ce n'est... Ben non, puisque nous sommes encore là. Et donc, au XIVe siècle, c'était la même chose. On pensait que le monde allait s'arrêter, allait mourir. Et un moine, dans son abbaye, a créé une histoire pour les survivants de cette fin du monde. Et moi, j'ai travaillé sur ce manuscrit tout à fait exceptionnel du XIVe siècle, qui était le best-seller absolu de l'époque, qui était connu dans toute l'Europe, on le jouait sur les places publiques, ça s'appelait « Le pèlerinage de vie humaine ». J'ai créé un livre qui s'appelle « Un pèlerinage intérieur », c'est tout mon travail par rapport à ce manuscrit. Et donc, je dirais, moi je n'ai pas été chercher le XIVe siècle, on m'a mis dedans. Et à partir de ce moment-là, j'ai une éditrice qui me propose de travailler sur la tapisserie d'Angers, XIVe siècle. Et voilà, donc moi, quand j'ai conçu Les Enfants de Notre-Dame, mon premier roman, il était tout à fait naturel parce que j'avais tous les éléments du décor, j'avais les couleurs, j'avais comment les gens mangeaient, comment ils vivaient, comment ils parlaient. Donc, je me suis dit, je vais chercher ce décor-là du XIVe siècle. Et j'aime cette époque, finalement. Ils ont bien fait de venir me chercher, je ne sais qui.
Je suis d'accord, mais...
Mais en tout cas, ils ont bien fait, parce que dans cette situation catastrophique, il y a des gens qui trouvent des moyens d'apporter du bon, de justement d'être en hyper-vigilance parce que le moment est grave. Et je trouve que c'est un très bon enseignement pour nous, qui vivons tous des épreuves, des difficultés. Et moi, je pense
à une époque, excusez-moi, je vous interromps, mais à une époque aussi où les événements ne sont pas rassurants du tout. Au niveau,
pas du tout.
Au plan mondial, c'est aussi
extrêmement anxiogène. Où les jeunes sont très mal, mais beaucoup de dépression parmi les jeunes. Et du coup, je trouve que c'est un très bon enseignement de voir comment quelqu'un qui était confronté à vraiment des horreurs arrivait à vivre et à vivre bien. Donc à faire quelque chose avec ce destin qui n'était pas facile. Et moi, j'ai beaucoup appris, appris de ce XIVe siècle.
Et c'est vrai que dans ce XIVe siècle, c'est aussi un des grands intérêts de votre livre, c'est que tout est message. Vous êtes finalement, vous aimez développer cette histoire, ce spirituel dans l'histoire, si l'on peut dire, ou cette spiritualité de l'histoire, je ne sais pas.
Ah oui. Ouais.
Mais oui. C'est quelque chose de très fort parce que on voit effectivement que, comme vous le dites, hein, c'est un peu peut-être le sens des épreuves, ou en tout cas le fait qu'il peut arriver des drames, on peut en faire quelque chose. En fait, on peut choisir la vie ou la mort, comme il est dit d'ailleurs dans la Bible. Et avant de revenir vers vous, je vais juste donner la parole à Aliénor, pour laquelle c'est très juste aussi, je crois que ça vous parle beaucoup, le fait que les difficultés, l'épreuve, et bien derrière, ça permet souvent d'accéder à des belles choses.
C'est après et c'est pendant. C'était une vraie question pendant mon voyage à pied. Une amie qui me demandait, mais pourquoi tu fais pas du stop quand c'est très dur, que ce soit à cause du terrain, des conditions météo. Et en fait, j'ai pris conscience que oui, il y a eu des moments où vraiment c'était compliqué. Mais ce que j'ai vécu de plus fort et peut-être qui m'a fait le plus grandir, c'était aussi à travers ces moments-là après où c'est comme une espèce de décapage. Le décapage et ça me rendait plus sensible à tout ce qui pouvait arriver. Et je me suis dit, mais si je contourne les moments difficiles, je me prive aussi de tout ce que je vais apprendre. Alors, je ne recherche pas les moments difficiles, je ne cherche pas à créer de la difficulté.
Personne.
En revanche, c'est simplement une fois. Parfois, je peux donner cette impression-là, mais ce n'est pas vrai. Et en revanche, voilà, c'est comment, dans la vie, me dire, plutôt que de lutter contre le courant, essayer de me dire, OK, bon, là, c'est un peu... c'est valable pour toutes les dimensions de la vie, hein, pas que en marchant. Comment, d'une certaine manière, je peux accepter ce qui m'arrive et voir où ça mène. Enfin, je pense qu'il y a c'est un équilibre entre l'abandon et l'acceptation d'avancer avec. Abandon, ça ne veut pas dire tout abandonner. Ce n'est pas pareil, je trouve.
Et je pense que ça implique aussi peut-être une façon d'être, c'est-à-dire être conscient aux choses, finalement, attentif.
Oui, se réveiller. J'aime beaucoup ce terme décapage parce que on pourrait dire aussi on marche plus aisément quand on est plus léger. Et le fait de s'abandonner, de dire bon, là c'est très difficile, mais j'y vais. Je commence un pas. Moi, je connais des religieuses qui sont les sœurs de Bethléem. L'une était confrontée à une très grave maladie et je lui avais posé la question, mais comment tu fais? Et elle m'avait répondu, on avance à la lumière de la bougie. C'est-à-dire qu'une bougie, ça éclaire un pas après l'autre. Ça éclaire pas très loin, mais on essaye de mettre de la clarté dans ce qui nous arrive. Et rien que ça, alors je ne dis pas que c'est facile, mais de toute façon, c'est pas facile ici. Et donc, cette espèce d'acceptation, d'abandon, de dépouillement, je pense que ça fait partie de notre chemin à accomplir.
Et vous faites dire à Aurore, d'ailleurs au début du livre, lorsqu'elle va être... Donc Aurore, on rappelle, c'est l'ermite qui est dans sa tour. À un moment, elle dit, c'est notre jugement sur les choses qui brouille notre entendement. La vie dans son entièreté est une aide à grandir pour peu que nous prenions conscience de sa sagesse.
Oui, Aurore, elle va être confrontée à quelque chose de très difficile puisqu'elle perd son ermitage, on le détruit. Et donc, elle se retrouve sans ces pierres qui l'entouraient. Et elle est un personnage qui est un jeune paysan qui s'appelle Tristan, va lui venir en aide. Et lui pose la question. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Et elle répond, ce que je vais devenir, je ne sais. Mais je suis certaine que l'arrivée de ces hommes, donc les hommes qui ont détruit sa tour, a été providentielle. Pourtant, lui dit Tristan, mais ils ont détruit ton ermitage, quelle violence est plus grande. Pendant qu'ils abattaient ma tour, j'ai bien cru que mon existence prenait fin. Je sais pourtant que le destin veille sur moi. Par la main de ces hommes, il a mis fin à ce que je pensais impérissable jusqu'à ma mort. Désormais, je suis libre de mener mes pas par un autre chemin. Mais tu ne seras plus sainte. Je ne le suis pas, je suis en chemin. L'important, c'est de se mettre en route sur le chemin de la sainteté et de continuer d'avancer. Si au bout de l'aventure, j'ai pu faire fructifier ma nature, j'aurai accompli ce que je dois faire sur cette terre. C'est-à-dire que ce que nous dit Aurore, c'est qu'il n'est pas, on n'a pas à être des super-héros, hein, moi j'aime bien les films de super-héros, mais on n'a pas à être des super-héros. Ce qui est important, c'est d'accomplir sa nature, c'est-à-dire de se bonifier, de se développer son charisme.
Son âme peut-être ?
Son âme. Bien sûr, de la faire grandir, de la découvrir aussi, d'aller à la recherche. Ça, c'est le plus beau des voyages, ça.
Oui, je suis d'accord. Alors, Paul, on parlait quand même très rapidement, avant maintenant de passer vraiment au livre, du contexte donc, de l'époque en France. Et il est quand même assez terrible. Bon, l'épidémie de peste qui a ravagé la France est terminée, mais elle a laissé le pays quand même dans une grande désolation. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la guerre avec l'Angleterre aussi.
Il y a la guerre avec l'Angleterre et donc les personnages, donc tous ces personnages qui vont aller à la recherche de cette petite jeune femme, Aube, ils vont traverser la Bourgogne qui est envahie par les Anglais.
Alors allons-y, traversons la Bourgogne.
Alors traversons la Bourgogne. Oui, alors la Bourgogne, elle est non seulement sous le joug des soldats anglais, qui tue les habitants, mais aussi sous le coup de ce qu'on appelle des mercenaires, qui sont les tarvenus. Et les tarvenus, ils arrivent après les soldats, comme leur nom indique. Et alors, eux, ils pillent absolument tout. L'herbe ne repousse pas derrière les tarvenus, et ils sont extrêmement dangereux. Et mes personnages, ils sont six. Et ils vont, c'est les personnages qui vont aller jusqu'à Jérusalem. Ils vont passer par la forêt.
Alors, je vous interromps deux petites secondes parce qu'il est l'heure de nous identifier pour ceux des auditeurs qui n'auraient pas pris l'émission depuis le début. Donc, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration donc de ce mercredi 17 juin, diffusé en direct. Donc, vous pouvez nous laisser des messages, participer ou des questions, soit par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@rc.fr. Le thème de l'émission est celui de l'appel de la Terre Sainte à travers les siècles, et plus exactement au Moyen-Âge, à la fin du XIVe siècle et en ce début de XXIe siècle. Alors, j'ai le très grand plaisir de m'entretenir avec Paul Amblard, qui est historienne de l'art médiéval et auteur, au sujet de son dernier ouvrage « Aube de Jérusalem », un roman historique suite donc de son précédent, qui était « Les enfants de Notre-Dame », publié donc les deux chez Salvator. Et puis également avec Aliénor Vidal de Lablache, qui est auteure passionnée par la marche, pour son récit « Seul à pied vers Jérusalem », également publié chez Salvator. Et nous avons un message d'auditeur, alors je ne sais pas si c'est un monsieur. Merci pour ce magnifique voyage à rebours. Nous ne sommes plus que le lien d'une présence sur les chemins de l'âme.
Oh, magnifique.
Merci,
cher auditeur. On aimerait qu'il soit avec nous dans le studio.
Absolument, mais il l'a déjà été. Merci beaucoup, cher auditeur. Merci. Donc, nous étions à l'entrée d'une forêt en Bourgogne. Alors, la forêt au Moyen-Âge, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ouais.
C'est un lieu très important. La forêt, d'abord, c'est un lieu habité. Nos forêts, bon, il y a les gardes forestiers, il y a les promeneurs, mais à part ça, il n'y a personne.
Les animaux, mais bon.
Les animaux, bien sûr, les animaux. Ce sont les habitants de la forêt. Mais au Moyen-Âge, c'est un lieu qui est habité, alors, par les ermites, tiens, on les retrouve, qui cherchent des coins très isolés avec des cours d'eau. Et puis, il y a, alors, les seigneurs permettent aux gardes forestiers d'utiliser le bois. Et le bois, on l'utilise énormément au Moyen-Âge. Hein. Les charpentes de cathédrales sont faites en bois, les roues des chariots, etc. On utilise énormément de bois. Donc, ils permettent qu'on exploite la forêt. Et puis, il y a aussi les... Alors, justement, on retrouve nos animaux, puisque les porchers peuvent mettre leur porc à la glandée. Et on exclut les chèvres, parce que ce sont des animaux catastrophiques pour les forêts, parce qu'elles détruisent les jeunes pousses. Donc, on exclut les chèvres. Interdiction des chèvres. Mais voilà, il y a les animaux, et puis il y a les voleurs. Et puis,
se cache, ouais.
Et il y a tout un monde, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes au Moyen-Âge. Mmh. Aujourd'hui, il y a les voitures, etc., certes. Mais il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, à part les pèlerins.
Les pèlerins, oui.
Mais imaginez qu'il y a tout un monde pas si sédentaire que ça. Mmh. Il y a des moines girovagues, il y a des étudiants, il y a des chevaliers, il y a des paysans qui vont d'un lieu à l'autre. Il y a énormément de monde. Et moi, j'ai créé donc un épisode dans la forêt, parce que je ne pouvais pas m'empêcher, parce qu'au Moyen-Âge, la forêt, c'est un lieu très important au niveau des symboles. On ne rentre pas dans une forêt en se disant ben, « Tiens, je vais aller voir, je vais traverser la forêt, je vais regarder les arbres, je vais être dans la nature ». Non, c'est plus que la nature. C'est un reflet divin, la forêt. Et donc, les arbres sont une voûte de cathédrale. On traverse la forêt comme si on était dans une nef. Donc, on va de l'obscurité. D'ailleurs, c'est un très bon truc à avoir, parce que chaque église, en fait, que l'on connaît, chaque chapelle, il y a toute cette traversée, cette idée de passer la porte et de se retrouver dans un lieu où on va marcher vers l'autel, donc on va être de l'ombre vers la lumière. Et voilà tout le sens de la nef, voilà tout le sens d'une forêt. On va vers la clairière. Et donc, il faut traverser la forêt et ça peut être dangereux.
Et oui.
Voilà.
Mais il existe aussi d'autres personnes qui vivent dans cette forêt.
Alors oui, dans le roman, il y a aussi des sorcières. Et moi, j'ai créé ces personnages de sorcières, alors en ayant beaucoup lu sur le sujet, parce que je voulais réhabiliter les bonnes sorcières. C'est-à-dire qu'au début, au XVe siècle, la sorcière va devenir maléfique. Le nez crochu, le balai, les mauvais sorts, c'est un personnage terrible. Mais au début du Moyen-Âge, les sorcières, alors, elles étaient un peu quand même sulfureuses, ces femmes, parce qu'elles avaient beaucoup d'indépendance. Mmh. C'était quand même des énergumènes, les sorcières, mais elles guérissaient.
Ah, voilà.
Et donc, elles savaient la science des herbes, des plantes, et enfin, j'étais des herboristes, en gros. Et elle savait soigner avec les herbes. Et on venait consulter les sorciers et les sorcières, qui n'étaient pas, c'était des gens en marge, mais ce n'étaient pas des gens maléfiques. Au contraire, c'était des gens plutôt bénéfiques. Et donc, moi, j'ai des bonnes sorcières dans ma forêt, qui sont quand même un peu effrayantes. Mais
tout de même.
Bon, oui,
on
surtout
voit bien
qu'elles
que
sont...
vos personnages ne sont pas très rassurés. Hein.
Elles sont en groupe.
Mais bon, on laissera découvrir peut-être.
Mais les personnages vont bénéficier des sorcières.
Exactement. Oui. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la forêt et les sorcières entre autres, chers auditeurs, vous pouvez vous référer à la fin de l'ouvrage de Paul Amblard. Il y a les petites notes à l'intention du lecteur, à des annexes, en fait, qui sont très, très bien agencées et qui traitent de différents thèmes, dont effectivement la forêt, entre autres, et puis la montagne.
Et la montagne, autre lieu éminemment symbolique. La montagne, c'est un symbole très ambivalent au Moyen-Âge. C'est à la fois le lieu des épiphanies, c'est-à-dire c'est là où Dieu apparaît. On l'a vu dans la Bible avec Moïse. Mais aussi, c'est le lieu de la transfiguration. Pour le Christ, et puis c'est le lieu d'enseignement, puisque le Christ, dès qu'il est en haut d'une montagne, il faut se dire, tiens, ça va être important.
Des béatitudes.
Voilà, exactement. Mmh. Le sermon des béatitudes est fait sur une montagne, donc c'est un lieu très épiphanique, mais c'est aussi un lieu, c'est un purgatoire de glace. On va traverser les monts, et les monts sont... alors, on considère que les monts sont animés, c'est-à-dire il faut traverser la montagne et la montagne peut décider de ne pas vous laisser passer. Ce sont comme des...
Est-ce qu'il y a des créatures qui vivent, comme le Yeti par exemple
Alors, plus que des créatures, les montagnes mêmes sont...
Elles-mêmes.
Ah, voilà, oui. Les montagnes elles-mêmes ont des intentions, peuvent vous laisser passer ou non. Et donc, c'est tout. Et puis, remettez-vous dans le contexte du XIVe siècle, on n'a pas les équipements d'aujourd'hui.
Alors, absolument. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Aliénor, en revanche, vous aimez la montagne. Et vous la cherchez, vous la recherchez dans votre chemin, justement, jusqu'à Jérusalem.
Oui, mais quand on traverse l'Italie, les pèlerins qui font ça, en fait, ont le choix entre passer au sud des Grands Lacs par la plaine du Pô ou au nord des Grands Lacs, et là, c'est par l'arc alpin. Et moi, j'ai fait ce choix. Je savais que ce serait un peu plus long et plus physique, mais aussi, peut-être, tout ce que vous dites, comme le lieu d'enseignement, de dépassement de soi. Et puis, c'est beau. Moi, ce qui me donne énormément d'énergie quand je marche, c'est la beauté. Même la montagne, même quand il ne fait pas beau, il y a quelque chose de fascinant, de mystérieux. Et je savais que finalement, ce serait peut-être plus dur physiquement, mais beaucoup plus porteur que la plaine où j'ai tendance à m'ennuyer un peu quand je marche.
on le comprend bien. Alors, nos pèlerins, parce qu'en fait, ils sont pèlerins un peu malgré eux, notre petit groupe d'amis.
Oui.
Ils ne sont pas des vrais pèlerins.
Ils se laissent guider par le destin. Voilà. Donc, en fait, ils sont un peu...
Et ils vont vers Jérusalem.
Alors, ils vont vers Jérusalem, mais en traversant la montagne, ils sont un petit peu... ils se disent qu'ils vont traverser la montagne. Rien ne les arrête.
Et alors, là, ils vont affronter quelque chose de terrible, la tempête. Alors, vous écrivez, oui. « Celui qui affronte la tempête des monts traverse un monde où l'humain n'a pas sa place. Ici, les éléments sont plus brusques et plus forts qu'ailleurs. Une peur saisit celui qui s'y confronte. Il se sent minuscule, perdu dans l'immensité blanche qui est alors aussi obscure que la nuit. Plus le vent de flocons se heurte au visage, plus les yeux se ferment et l'on se sent dans un néant. On est gelé jusqu'à l'os. Seigneur, pensais-je à chaque pas. » Là, c'est l'ermite qui parle. Si nous sortions sains et saufs de ce tourment, nous pourrions tout affronter.
Oui, celui qui traverse la montagne et la neige peut tout affronter. Mais il y a des vraies prières, vous savez, des véritables prières de gens qui traversent, de voyageurs qui traversent la montagne. Je vous en lis juste une petite. « Seigneur, Je voudrais revenir à mes frères pour que je puisse les faire renoncer à venir dans ce lieu de tourment. Donc, c'est très fort, la montagne.
c'est très, très fort.
Au Moyen-Âge, on pense que les montagnes ont une voix, on pense que les montagnes peuvent vous donner la mort.
Et je voudrais signifier aussi aux auditeurs, en fait, que vous avez réalisé un immense travail d'historienne et que tout ce que vous dites là, bien sûr, provient de sources sûres. Cette montagne, c'est vrai que... Ah ben, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave.
Ben, en tout cas, c'est vrai que moi, c'est mon bonheur, c'est de faire une histoire fictive.
Oui.
D'écrire une histoire fictive avec des personnages fictifs, mais tout ce que je décris de la vie quotidienne, c'est-à-dire comment ils traversaient une montagne concrètement. Alors, ils traversaient avec des guides qui s'appelaient des marrons,
oui,
et qui les faisaient traverser. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup documenté toute cette histoire parce qu'on se laisse emporter dans une histoire,
oui,
mais aussi on apprend.
Et
j'aime
également
ça, sans le savoir.
Et vous nous le faites également. Mais alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que vous avez aussi cet effort de romancière historienne de vous replonger justement dans la mentalité des gens de l'époque.
Oui.
Effort à faire, dans ce travail d'écriture aussi.
Alors oui, je ne dirais même pas effort parce que, en fait, c'est un exercice extrêmement intéressant pour un auteur. On se laisse, en fait... C'est comme si on était une page blanche, c'est-à-dire qu'on n'est plus de cette époque. D'ailleurs, c'est compliqué quand on écrit un roman, vous savez, hein, je vous livre les coulisses. Mais
dites-nous.
En fait, notre époque, moi je suis quelqu'un du 21e siècle et j'ai du mal à aller faire mes courses quand j'écris une histoire comme ça parce que je suis complètement envahie par mon ambiance, mes personnages, et puis je ne sors pas beaucoup de ce Moyen-Âge.
Bien sûr.
Donc j'ai des fois un petit peu de mal devant les boutiques, je ne sais plus comment faire. Mais enfin, je me débrouille, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est extrêmement prenant, et on a beaucoup de joie à ce que ce soit prenant, en fait. On se laisse faire, mais il faut oublier un maximum de réflexes de notre époque. C'est un exercice extrêmement intéressant. Hein. C'est comme un voyage dans un pays étranger,
oui,
où nos repères ne sont plus habituels. Et c'est très agréable, en fait, de laisser tomber le connu.
Et c'est aussi très enrichissant, j'imagine.
Mais c'est très enrichissant, ouais, parce que les... encore une fois, on se dit, bah, tiens, ce problème-là, de notre époque ne se posait pas avant. Pourquoi ? Voilà, on apprend aussi en allant chercher les racines.
Très important. Donc, les racines du passé et de notre histoire. Dans votre livre, vous évoquez également la cité de Lyon. Donc, c'est une cité à l'époque épargnée donc, par les pillages et les sièges. C'est une cité très religieuse. Alors, on peut peut-être en profiter pour parler de l'importance justement de l'hospitalité, du rôle des religieux, en fait, à Lyon à l'époque. Parce qu'à Lyon, on voit qu'il y avait des frères prêcheurs, des Clarisses, des Augustins,
oui,
des Cordeliers, des frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Toute cette culture de l'hospitalité et qui va continuer, même en Terre Sainte ensuite.
Oui.
Je voulais savoir, Aliénor, vous-même, vous avez bénéficié de l'hospitalité des religieux ?
Oui, oui, oui. Alors, pas que de tout le monde, mais...
Oui, ça, on en parlera, oui.
De tous ceux à qui j'ai demandé l'hospitalité, forcément, ça dépendait un peu des pays dans lesquels j'étais, mais... Et ce qui était intéressant aussi, ce que je recherchais, c'est que c'était une hospitalité religieuse, mais interchrétienne. J'ai été beaucoup accueillie, par exemple, en Grèce, au Monténégro, dans des monastères orthodoxes, plutôt de femmes, hein, sinon ça aurait été compliqué d'entrer dans un monastère d'hommes. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'être confrontée à une autre manière d'être dans la foi. C'était très enrichissant. J'ai aussi été accueillie, alors c'était pas de communauté religieuse, mais par exemple en Israël, par des familles juives le jour de Shabbat, et donc de participer aux prières et aux repas le soir avec eux. C'était quelque chose que je recherchais, ça, de me confronter, de m'ouvrir plutôt à, à la réalité quotidienne d'autres religions.
Très bien.
Et des familles musulmanes. Alors là, je n'ai pas été accueillie dans des centres, après des communautés musulmanes, mais par des familles.
Très bien. Alors, il y a aussi Venise, mais là, on ne va pas s'y arrêter. Je conseille à nos auditeurs de se plonger dans ces pages magnifiques, ce passage de cette cité centenaire, de cette cité enchanteresse. Le voyage, le reste du voyage, ils vont le faire en bateau. Et
Oui.
un bateau qui s'appelle la Galée. Et là,
Oui.
je voudrais vous entendre parce qu'on connaît la galère, mais la Galée,
Oui.
ça m'était complètement inconnu.
Oui, c'est le terme même des navires qui emportaient les voyageurs. Et donc, les personnages vont prendre une galée. Et donc là, c'était tout un protocole. Ils sont à Venise et ils font appel à ce qu'on appelle les tolomari, qui organisent, parce qu'en fait, il y avait un tel trafic autour des pèlerins, en fait, on profitait de leur volonté de partir pour prendre tout leur argent. Et donc, les tolomari étaient des hommes qui étaient liés à l'État et organisaient les voyages. Mais vous savez, quand on prenait une galée, il n'y avait pas simplement le prix du voyage, il y avait aussi toute une organisation pour passer des nuits et des jours sur le navire. Donc il fallait sa nourriture, il fallait un hamac, parce que sinon on était dans l'eau immédiatement, hein. Et donc c'était grave parce qu'on pouvait développer des maladies. Il fallait de la viande séchée pour qu'il puisse tenir longuement, parce qu'on savait quand on partait, il fallait à peu près 5 semaines, hein, pour aller de Venise
Oui.
à Jaffa. Mais il pouvait y avoir des aléas du voyage. Donc, il y avait tout ça à organiser. Il y avait un coffre pour les vêtements, pour les tenir au sec, encore une fois.
Oui, oui.
L'humidité était, et l'eau était un fléau sur les bateaux. Et puis, ils étaient malades. C'était des conditions effroyables sur les bateaux. Et donc, mes personnages vont connaître ces conditions aussi. Et puis, ils vont connaître surtout les étapes du voyage, puisque Venise avait des comptoirs à peu près sur les côtes dalmates, dans toute l'Asie, jusqu'à Jaffa. Et donc, il y a des comptoirs vénitiens dans lesquels le bateau s'arrête pour reprendre, pour faire le plein de nourriture, pour voilà, et se reposer.
Alors, je crois que c'est à Raguse où il découvre le marché aux esclaves.
Oui, à Raguse, il y a un marché aux esclaves. Bon, ça, c'est assez terrible. Et ils ne restent pas très longuement. Mais ils étaient confrontés à beaucoup de maladies, surtout au cours de ces voyages. Il y avait de la dysenterie, il y avait des maux d'estomac, il y avait du scorbut.
Puis il y avait les pirates.
Et il y avait les pirates. Alors, les pirates, à la fois, ils pouvaient juste piller le navire. Ils voulaient tout ce qu'il y a, les biens, la nourriture, ils prenaient tout. Et puis des fois, ils attaquaient. Donc c'était vraiment. D'ailleurs, quand partait en pèlerinage, pour un pèlerin qui allait jusqu'à Jérusalem en prenant le bateau ou la terre, hein, le chemin de terre, ils savaient quand est-ce qu'ils partaient, mais ils donnaient leur vie. C'est-à-dire que un pèlerin était considéré comme sacré, sanctifié au départ, parce que il pouvait perdre la vie au cours de son voyage et il l'acceptait.
Et alors, là, j'anticipe un tout petit peu, mais une fois que le pèlerin arrivait à Jérusalem, qu'est-ce qu'il faisait? Bien sûr, il allait au
Alors,
Saint-Sépulcre.
d'abord, il y avait Jaffa.
Il y avait Jaffa d'abord.
Jaffa, c'est là où, bah, c'est un port.
Oui.
Et dans le port de Jaffa, il y a des longues heures d'attente parce qu'il faut passer devant le douanier, Mamelouk, qui inscrit votre nom dans un registre et qui vous fait payer
Voilà, ce dont vous
le
nous parliez.
péage.
Voilà. Alors,
C'est-à-dire.
Jaffa, en fait, c'est une partie de l'actuelle Tel Aviv, hein, si
Oui,
je.
tout à fait.
Oui, merde.
Et donc, après, effectivement, ils arrivent à Jérusalem et là, soit. Ils vont au Saint-Sépulcre directement. C'était en fait le but du pèlerinage à Jérusalem, c'était ça. C'était d'aller au Saint-Sépulcre. Maintenant, les pèlerins, ils pouvaient rester longuement. Et j'aime beaucoup ce temps-là, c'est-à-dire qu'ils s'écoutaient. Alors peut-être qu'Aliénor a quelque chose aussi à nous dire là-dessus, sur ce temps que l'on s'accorde. On ne prévoit pas de partir pour un mois. On prévoit de partir. Et après, on ne sait pas ce qui nous attend. Il n'y a pas de, il n'y a pas de date limite. Il y a juste l'arrivée à Jérusalem et les pèlerins qui arrivent à Jérusalem. Non seulement le petit groupe qui est à la recherche de Aube, mais aussi ils sont accompagnés d'autres pèlerins. Et ces pèlerins, ils vont rester des mois et des mois. Parce qu'ils sentent que leur pèlerinage n'est pas totalement accompli. Et donc, ils vont aller au Saint-Sépulcre, certes, mais ils vont vivre à Jérusalem. Alors ça, c'est intéressant, parce que nous, on est toujours limités.
Oui.
On est toujours pris par le temps. Le temps est finalement nous contraint. Et à l'époque, c'était beaucoup moins ça.
Et alors, écoutez, je ne pensais pas en parler tout de suite, mais on peut peut-être l'évoquer avec vous, Aliénor, sur justement ce temps long. Parce que finalement, bon, on le verra, pour vous, le pèlerinage est une partie, en tout cas, de votre façon de marcher. Et vous écrivez « Un pèlerin ne cherche pas à aller vite, justement. Il n'est pas là pour tout voir, tout visiter. Sa quête est intérieure, son but spirituel. Il est en route vers une trace, une empreinte du divin sur la terre. Un rappel, un signe que quelque chose de plus grand que lui existe. Le pèlerinage à pied permet la lenteur, le dépouillement, le silence, la simplicité du face-à-face avec la nature et les êtres humains. Chaque minute de beauté ou de douleur est vécue avec intensité. Je suis perdue si j'avance autrement qu'avec mes pieds. Sans la marche, ma démarche perd son sens. » Donc c'est la définition aussi du pèlerin pour vous. La marche lente, la marche longue.
Oui, alors je pense qu'il y aurait sans doute autant de définitions que de pèlerins. Et certains peuvent vivre une vraie démarche en n'étant pas à pied. Moi, je sentais que j'avais besoin de ça et j'ai justement apprécié d'avoir ce temps long. C'était quelque chose que je cherchais. Je m'étais jamais dit, c'était pas un vieux rêve d'aller à Jérusalem à pied. Ce que je cherchais, c'est à la fois de vivre une aventure et qu'il soit porté, nourri par une dimension spirituelle. Et j'avais besoin que ce soit loin et je voulais surtout pas maîtriser ce qui allait se passer. J'avais rien prévu. Mon itinéraire, c'était une vague ligne tracée sur une feuille A4. Et j'aimais bien aussi ce rapport au temps et à l'espace, c'est-à-dire que dans nos vies d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le temps est beaucoup régi par la montre, par le calendrier, et tandis que quand je marchais, mon temps était plus, ma vie était plus organisée selon la carte, selon l'espace, là où j'étais, comment j'avançais, le nombre de kilomètres. Je savais souvent pas dire quel jour on était de la semaine. Et ça, c'est cette espèce de dilution du temps dans l'espace. J'ai trouvé que c'était fascinant. Aussi, prendre conscience de la taille de notre planète, de notre petitesse. Aujourd'hui, on va tellement vite. D'ailleurs, j'ai dû rentrer en avion un peu précipitamment. Et après un mois passé à Jérusalem, en Terre Sainte, à la fin de ma marche, et c'était très particulier de faire, je ne sais plus, 5 heures d'avion, ce que j'avais mis des mois à faire à pied.
Oui.
Et j'ai aimé cette réappropriation de ma vie dans l'espace.
Extrêmement importante, extrêmement importante. Nous avons un petit peu évoqué les différentes phases de cette grande marche, donc de cette aventure de nos amis pèlerins. Vous vouliez dire aussi, enfin pèlerins, en tout cas chercheurs en quête de. Alors il faudra voir, bien sûr, lire le livre pour voir si Agathe retrouve Aube. En tout cas, on peut imaginer dès le début que Aurore l'a trouvée, puisque on a oublié de dire que c'était finalement un roman dans lequel il y a deux voix, en quelque sorte. Il y a la voix d'Aurore qui échange avec Aube. Et donc on voit dès le début, donc on voit qu'elle a réussi à la retrouver, en tout cas elle. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui va devenir de ce petit groupe. Et puis, il y a Aube qui se raconte elle-même. Donc oui. Ça, c'est ce côté très important. Et vous disiez aussi que cette symbolique du Moyen-Âge, donc ces messages, tout cet aspect spirituel fort profond, vous est infiniment précieuse et importante, mais aussi les rapports entre les gens.
Oui. Le roman, c'est à la fois la quête des personnages et la quête de Aube. Qui cherche quand même sa mère, même si elle reste à Jérusalem. Et donc, il me semblait important de montrer aussi tout son parcours, Donc, en fait, le lecteur, il est dans la confidence. Il sait que cette jeune femme existe. Il sait qu'elle vit à Jérusalem. Il sait ce qu'elle est devenue. Et la quête vers elle, finalement, nous, lecteurs, nous est connue. Mais, et je trouvais intéressant de montrer à la fois la vie là-bas, la vie à Jérusalem, et aussi cette recherche de cette jeune femme qui attend sa mère. D'ailleurs, je peux lire peut-être
un tout petit extrait. Le temps passe très vite, malheureusement.
Oui. Elle attend donc, elle dit « Je connais l'enfance de ma mère, son chagrin quand elle perdit la sienne, ses doutes de jeunesse, sa passion pour l'art d'enluminer. J'ai l'impression de tout connaître de ce qui lui est intérieur, de ses humeurs, de ses engouements, et pourtant j'ignore tout de son apparence. Je l'attends depuis toujours. Aujourd'hui, je sais qu'elle vient. Lorsqu'elle paraîtra devant moi, toutes les questions qui m'absorbent depuis des années auront trouvé réponse. Grâce à l'ermite, je saurai avant même que ma mère ne me raconte comment elle a grandi, comment elle a aimé, comment elle a pris soin de moi avant de me perdre. J'aurai résolu l'énigme. Le récit de son voyage pour me retrouver n'aura plus de secret. Lorsqu'elle sera devant moi, seul l'amour parlera entre nous. »
Magnifique. Donc, chers auditeurs, voilà, je vous laisse découvrir ce magnifique roman très riche qui fait vraiment beaucoup de bien. On apprend au plan historique, géographique, ça vous l'aurez compris, mais aussi symbolique, spirituel. Aube de Jérusalem, le roman de Paul Amblard aux éditions Salvator. Un ouvrage d'ailleurs qui se termine par un extrait d'un poème en fait, une prière qui est, alors on n'a pas le temps de la lire, mais c'est une prière que chaque pèlerin à Jérusalem disait. Alors je vais juste lire le début, hein. « Je te salue ville sainte, tant que le Très-Haut a sanctifié pour y accomplir le salut du genre humain. » Voilà. Chers auditeurs, nous avons un message important à lire et je laisse Benoît à la technique vous le passer.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs, et oui, nous avons besoin de vous. Vous êtes vraiment bien la vie de cette radio finalement. En tout cas, vous êtes à l'origine de cette radio et surtout vous pouvez contribuer à ce qu'elle existe, qu'elle perdure dans le temps. Alors cette radio, donc Radio Courtoisie que vous écoutez, le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, donc de ce mercredi 17 juin qui est diffusé en direct. Donc je rappelle que vous pouvez laisser vos messages ou vos questions à nos invités. Le thème de l'émission est celui de l'appel de la Terre Sainte à travers les siècles, donc de la fin du 14e siècle et aussi maintenant en ce début de 21e siècle. Et donc j'ai la grande joie de m'entretenir avec Paul Amblard, historienne de l'art médiéval et auteur. Son dernier ouvrage, donc Aube de Jérusalem, un roman historique, la suite donc du précédent Les Enfants de Notre-Dame, publié chez Salvator. Et Aliénor Vidal de La Blache, qui est auteur et passionné par la marche pour son récit, Seul à pied vers Jérusalem, également publié chez Salvator. Après l'aube de Jérusalem et cette prière du pèlerin, Aliénor, nous allons faire un saut dans le temps et avec votre livre, donc Seul à pied vers Jérusalem, édité chez Salvator, qui est préfacé d'ailleurs par François-Xavier de Villemagne, qui a également fait plusieurs pèlerinages vers Compostelle, en tout cas. Jérusalem. Il a dû faire Compostelle aussi, mais Jérusalem. Et donc, c'est dans la collection Chemin d'Étoiles. Je voulais juste remarquer qu'également, votre livre se termine par une prière. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Toutes les deux, vous avez eu cette intuition-là, on va dire. Je crois que c'est tiré des heures...
Oui, c'est tiré de la liturgie des heures.
La liturgie des heures, voilà. Et c'est aussi le pèlerin, c'est va pèlerin, c'est ça. Je crois que c'est va pèlerin. Attendez, j'avais noté. Évidemment, je le retrouve.
Va pèlerin, suis ta quête.
C'est ça, va ton chemin, que rien ne t'arrête. Voilà, ouais. Entre autres, hein, ça c'est le début. Ouais, alors, vous nous proposez donc, avec ce premier ouvrage, hein, comme on l'a dit, alors je le montre à l'écran, voilà, il est là, très bel ouvrage avec mes post-it. Donc, vous nous proposez un récit d'aventure et de pèlerinage extraordinairement humain, comme je le disais tout à l'heure. Vous nous faites partager cette expérience de vie intense, hein, qui fut la vôtre, vécue chaque jour à travers votre parcours et puis la multitude de vos rencontres. Donc en 2017, puisque vous partez à cette époque-là, et vous allez vivre 8 mois de joie, d'épreuves, de dépouillement, d'abandon à la Providence, de pas sur la route de marche. Alors pourquoi ce livre, publié en 2024, donc bien longtemps après?
En fait, j'avais dit que j'écrirais pas de livre. Avant, je voulais vraiment vivre le voyage pour le voyage. C'est-à-dire que je voulais pas le justifier par un projet, par un objectif quelconque. C'était vraiment goûter à une vie un peu d'errance sur les routes pour ce que le quotidien avait à m'offrir. Donc, un projet, c'est une perspective. Ça introduit forcément un biais dans la façon dont on vit les choses. Et moi, je voulais pas de ça.
Mais vous aviez quand même pris des carnets que vous remplissiez.
Alors, j'écris tout, oui, parce que j'aimais déjà écrire et j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, surtout quand je marche tous les jours. Moi, déjà, parce que j'ai une mauvaise mémoire. J'ai pas une mémoire précise, donc ça m'aide à garder une mémoire de ce que je vis. Et puis ça, comme je marche souvent seule, ça me permet aussi de m'exprimer sur ce que je vis, de ce que je traverse. Donc j'avais tous ces carnets, mais que j'avais jamais rouvert. J'avais jamais réussi à les ouvrir avant d'écrire le livre. Et puis c'est quelques années plus tard par un concours de circonstances, notamment grâce à Charlotte Joussaume, qui a écrit un livre aussi dans la collection Chemin d'étoiles.
Absolument, oui.
Voilà, c'est grâce à elle en fait. Je lui dis que c'est ma bonne fée, c'est grâce à elle que j'ai écrit ce livre. Je pense qu'elle a entendu mon désir d'écrire avant que moi je le réalise. Et c'était très beau d'écrire plusieurs années après, parce que ça m'a permis d'avoir du recul sur ce que j'avais vécu et presque de revivre une deuxième fois le voyage, mais d'une autre manière. Donc je ne regrette pas du tout ces quelques années entre les deux.
Et puis finalement, ça vous permet aussi de partager vraiment la mémoire de ce voyage avec nous aussi maintenant, nous lecteurs.
Ouais. C'est vrai que j'en parlais peu. Pas mal d'amis et de membres de ma famille me l'ont fait remarquer après, en me disant, c'est fou, on a l'impression qu'on découvre ce voyage alors que tu l'as vécu il y a des années. Mais c'est dur à partager.
Oui.
Quelque part, c'est un peu hors norme. Donc, ce n'est pas que je ne voulais pas en parler, ce n'est pas que c'était tabou, secret, c'est que je ne savais pas quel mot mettre dessus.
C'est une expérience très forte, finalement, que vous avez vécue, et physiquement, ouais, et intérieurement. Et je pense qu'effectivement, toute expérience aussi intérieure vécue, par exemple spirituelle, lors de retraites ou autres, on ne peut pas les relater. On ne peut pas comme ça.
En fait, c'est à la fois très fort et très austère, parce que quand on marche, on est tout seul, on se lève, on marche, on dort.
Oui, c'est dur, c'est dur.
C'est dur, puis il y a quand même une phase. On est quelque part, tout est intense, c'est-à-dire que aussi, à la fois, il ne se passe pas grand-chose et il se passe beaucoup de choses. Donc, le fait d'écrire le livre et de prendre le temps de me dire quel mot je veux mettre là-dessus. J'hésitais aussi à écrire un livre parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Si c'est uniquement l'aspect aventure et organisation du voyage, moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. Je me disais, le plus beau, finalement, c'est ce qui est intérieur, c'est la rencontre, c'est la dimension spirituelle. Mais ça veut dire que je me dévoile.
Mais vous réussissez très bien.
Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prête à dévoiler ? J'ai besoin de ce temps de maturation aussi.
Mais vous le dévoilez de façon très naturelle, j'ai trouvé, en vous lisant avec beaucoup de simplicité, puisque vous choisissez finalement d'ancrer cette marche dans la vie concrète. Vous partez de chez vous, carrément, vous fermez la porte, et voilà, sans tambour ni trompette, vous partez un beau matin, j'allais dire, et voilà, vous vous livrez finalement à l'imprévu, au dépouillement aussi. Et je dois dire que le lecteur chemine avec vous, réellement. Réellement, même quand on ne l'a jamais fait, hein, eh bien on vit avec vous, avec vos émotions aussi, parce qu'il y en a, parce que vous êtes une femme, voilà, et je trouve ça tout à fait particulièrement intéressant. Alors avant ce chemin, vous avez quand même déjà marché, vous avez fait Compostelle, il faut le dire quand même, parce que la plupart ont souvent fait Compostelle avant de faire Jérusalem à pied. Enfin, je dis la plupart, il n'y en a pas beaucoup tant que ça quand même qui ont fait Jérusalem à pied. Hein. Et vous partez donc en 2017 au mois de mai, alors une période plus propice que vous, en fait, Paul oui. Lamblard, parce que nos amis partent plutôt en plein hiver. Hein.
Oui, c'est encore l'hiver et donc ils traversent des montagnes enneigées, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait partir vers Jérusalem, Aliénor?
Je crois que ça se situe dans deux temps. En tout cas, le départ, le fait que ce soit Jérusalem, c'est autre chose. Mais je crois que j'avais une envie d'aventure, de dépassement, de lien, de vivre quelque chose d'un peu différent qui était très nourri par des lectures depuis que j'étais enfant. Et puis, peu à peu, ces désirs, ces rêves ont pris un peu corps dans la réalité. Mais voilà, j'avais jamais été jusqu'au bout de ce que j'avais envie de vivre. Et c'est en 2015, je crois, j'étais à un festival de films et de livres d'aventure et j'ai eu un déclic en me disant « mais j'en rêve depuis si longtemps, pourquoi je ne le ferais pas ?» Donc au départ, c'était plutôt l'aventure que je cherchais. Et peu à peu, je me suis rendu compte que l'aventure, oui, mais je pouvais vite me perdre et tourner autour de ce qui m'anime réellement. Et ça, c'était une quête plutôt spirituelle. Et c'est là où je me dis, pourquoi pas Jérusalem? En fait, c'est assez loin pour que ce soit l'aventure d'y aller. Et sûrement, porteur de plein de symboles spirituels, religieux qui viendront nourrir une quête. Je ne savais pas trop laquelle.
Oui.
Ça m'allait de ne pas savoir. Je voulais, je me suis dit, je garde ça pour le chemin.
D'accord. Ça, c'est aussi quelque chose de spécifique dans votre marche, justement, aventure, vraiment. Vous allez quand même préparer, même si vous ne savez pas vraiment cela, vous allez quand même le préparer pendant un an et demi, je crois.
Le temps de préparation, ça a été surtout pourquoi je pars. Au début, j'en parlais pas beaucoup, mais enfin, les quelques amis à qui j'en parlais se moquaient de moi, parce que tous les mois, j'arrivais avec un projet complètement hurluberlu. Et ça a été plutôt de la question du pourquoi je pars. C'était pas du tout une préparation logistique ou matérielle. C'était vraiment, je le dis dans le livre, je crois, je suis part. Enfin, ce temps de préparation intérieure, ça m'a permis que ce soit plus une fuite.
C'est ça.
Mais vraiment une quête.
Une quête. On revient à la notion de quête.
Hein. Oui, tout à fait. Et les derniers mois, alors à partir du moment où j'ai pris ma décision de partir, oui, là, on bascule dans une autre préparation un peu plus organisationnelle. Mais j'ai vraiment eu besoin de ce temps de maturation avant.
Alors, vous marchez seule, ça on l'a bien compris, et vous vous fixez trois règles cependant. Alors, vous pouvez nous les dire?
La première, c'était que je faisais au maximum tout à pied. Donc, déjà en 2017, on pouvait plus vraiment tout traverser à pied, c'est-à-dire qu'il aurait fallu passer par l'est de la Turquie, par la Syrie. Enfin, c'est compliqué d'accès à pied. Donc, autant que possible, tout à pied, c'est-à-dire que pas de stop. Et donc, ça, c'était la première règle. La deuxième, c'était que je demandais l'hospitalité. Je ne payais pas pour dormir. C'est une règle qui a eu beaucoup d'impact sur la façon dont j'ai vécu ce voyage. La troisième règle, c'est que j'avais 5 euros par jour pour vivre. Alors, certains pèlerins ont pris sans carte bleue. Moi, je ne me sentais pas de partir sans carte bleue. Donc, j'ai calculé combien j'avais d'économies. J'ai divisé par à peu près ce que j'imaginais être la durée de mon voyage. Et ça donnait 5 euros par jour.
Et voilà. Ça a suffi?
Grâce à la générosité de personnes rencontrées, oui.
D'accord.
Et quand même rajouter l'achat d'une paire de chaussures et d'un billet de retour.
Aussi, exactement. Ça, c'est important. Et puis peut-être une tente aussi, parce que l'hospitalité n'est pas forcément sûre. Donc, vous aviez prévu de bivouaquer, je crois, aussi, éventuellement.
Oui, j'avais ma tente, j'avais ce qu'il fallait pour bivouaquer. Et c'était pas tant que je faisais pas confiance à l'hospitalité. C'était plus que je recherchais aussi quand même une façon de voyager dans des endroits plus sauvages, dans la nature. Et pour ça, le fait d'avoir une tente, ça me donnait une grande liberté. Pouvoir choisir mon itinéraire en évitant les villes, de toute façon, parce que j'aime pas marcher dans les villes, mais aussi parfois les lieux habités.
Oui, parce que vous avez une géographie aussi de la marche. Hein. Effectivement, vous le dites, vous n'aimez pas les villes, vous les évitez, et vous, les routes également, les voitures. Donc, je vous cite, hein. Ma géographie n'est pas celle des voitures. Voilà, c'est dit. Elle n'est pas non plus celle des randonneurs ni des touristes. Ne pas suivre un itinéraire balisé demande certes de l'inventivité. Chaque soir, en fin d'étape, je passe du temps sur la carte pour repérer les sentiers allant en direction de l'Est. C'est quand même très exigeant, ça.
C'est exigeant, c'est presque un jeu au bout d'un moment. Aujourd'hui, j'ai du mal d'ailleurs à... Enfin, j'ai pas toujours envie de marcher sur des sentiers balisés. J'ai trouvé ça chouette de créer mon itinéraire, même si c'est vrai que c'est assez chronophage. Par exemple, quand j'étais dans les Alpes, les randonneurs que je croisais ne comprenaient pas que je sois pas à la quête de tous les sommets. Quand je marchais ailleurs, on trouvait au contraire que mes itinéraires étaient un peu audacieux. Ça m'a pris quelques temps de me dire bon, je demande conseil, mais je garde la main sur mon itinéraire parce qu'en fait c'est un peu à part. Ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, je pensais au Moyen-Âge, j'ai retrouvé juste en regardant la carte, en regardant une logique en étudiant une logique de traversée, notamment dans les Alpes, mais aussi ailleurs, je me retrouvais à marcher par exemple sur des vieux chemins muletiers qui servaient pour des commerçants, tous les voyageurs d'autrefois. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment senti que par une simple logique de géographie, je mettais mes pas dans les pas des marcheurs d'autrefois.
Formidable. Et c'est vrai que vous avez quand même, on le sent, hein, vous le dites, vous aimez la liberté. Et vous le dites d'ailleurs, hein, j'adore cette liberté d'aller où je veux, d'avancer à mon rythme, d'être dehors du matin au soir. Je me réveille chaque matin, même écrivez-vous, avec la sensation d'avoir vécu 1000 vies. Donc la liberté, c'est important. Et puis il y a aussi autre chose pour vous, c'est la solitude, mais la solitude, bien sûr, choisie. Ouais. Ce que vous dites, alors je vous cite aussi, « J'aime cette solitude qui m'emmène loin du regard des autres et du bruit du monde, qui me fait sentir entièrement à ma place, à la fois pleinement là et nulle part, comme une libellule éphémère qui n'a d'autre utilité que d'exister. » Vous avez une belle plume aussi, hein, Lienor.
Merci. Ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être encore plus dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis tout le temps happé par les écrans de téléphone, c'est quelque chose dont on parle, mais de retrouver un goût de l'instant et de la gratuité. Parfois, même les chemins, j'étais étonnée parfois de me retrouver sur des chemins où il y a des panneaux partout, il y a du matériel pour faire du sport. En fait, j'ai l'impression qu'il faut une espèce de gain tout le temps, que ce soit pour son bien-être. On lit le moindre article sur la marche, il faut qu'il y ait un gain pour son bien-être, pour sa santé.
Il faut que ce soit utile.
C'est ça, exactement. Il y a un devoir d'utilité. Et je nie pas tout ça. Je suis la première à en bénéficier. J'ai encore une fois, ce matin, en me réveillant, je suis allée marcher 1h30. J'adore ça. Mais j'avais juste envie d'être dans une gratuité du moment, une forme de légèreté qui peut parfois se transformer en lourdeur quand il ne fait pas beau du tout, par exemple. Et ça, c'était merveilleux. Et le fait d'être seule d'avoir apprivoisé cette liberté, cette solitude, il m'a fallu du temps au début. C'était un tel changement de rythme que ce n'était pas du tout du jour au lendemain que j'ai réussi à profiter de ça. Et puis la solitude, il y a eu des moments où c'était dur. Des moments tout simples, mais ça veut dire que le fait d'être seule, je suis tout le temps responsable de mon propre itinéraire, je dois faire tous les choix toute seule. Parfois, je me disais, j'ai presque envie de me disputer avec quelqu'un sur l'itinéraire, mais juste qu'au moins qu'on soit pas deux cerveaux à réfléchir. Et puis, il y a eu toute cette phase quand j'étais en Albanie. L'Albanie, ça a été un pays fascinant. Je suis restée, je crois, 3 semaines là-bas. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai été malade. Et c'est le pays où j'ai jamais dormi dans ma tente. Partout, on m'a accueillie. Et ils disaient eux-mêmes, on est très curieux. Et c'est vrai que là, pour le coup, contrairement à la France, vous disiez, Paul Amblard, qu'autrefois, il y avait des gens partout sur les chemins. En France, c'était pas vrai. Enfin, j'étais très souvent toute seule. En revanche, en Albanie, aujourd'hui, c'est fou. Il y a vraiment dans des régions, je croisais jamais personne. En revanche, en Albanie, je croisais du monde. C'est une terre encore plus rurale et je croisais du monde. Et les gens me regardaient beaucoup, venaient beaucoup vers moi. C'était avec beaucoup de bienveillance, mais je me sentais très étrangère du fait d'être sous le regard tout le temps des gens. J'étais beaucoup accueillie dans des familles, donc là, on me faisait dormir dans le salon, dans la chambre des enfants, et toute la famille me regardait dormir parce qu'ils n'avaient jamais vu un sac de couchage et que c'était curieux. Cette solitude-là, qui était vraiment, moi, étrangère sous le regard des autres, je l'ai trouvée très dure. Et c'est le seul moment de mon voyage où je me suis demandé si j'irais jusqu'au bout. Vraiment, j'y arrivais plus.
Et qu'est-ce qui
Et
a
après,
fait que vous allez continuer?
ben, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve la solitude que j'aime. Comme le soir, le fait d'être tout le temps accueilli chez les gens, ça voulait aussi dire que c'était moins reposant parce qu'il fallait échanger, converser. Alors, je ne
Oui.
parle pas l'anglais, donc on se débrouillait comme on pouvait. Et donc, à midi, enfin, voilà, j'essayais de prendre soin de mes temps de repos à midi et de me mettre vraiment, de chercher un lieu à l'écart des regards. Et je prenais des temps de pause longs, parfois de 2 heures, de 3 heures, ce qui est plutôt long dans une journée de marcheur, et de lire, de dormir, mais vraiment que ce soit un temps de ressources.
On le comprend très très bien. Et en ce qui concerne cette hospitalité, c'est vrai que vous dites qu'en Europe, demander l'hospitalité provoque parfois de la méfiance. Alors l'Albanie, ça vous en parlez, et oui, comme vous le dites. Et puis il y a une belle rencontre avec Christina, sa fille et sa grand-mère qui vous accueillent dans très peu de mètres carrés en fait, qui vous font la place. C'est très émouvant cette rencontre.
C'est une des rencontres qui m'a le plus émue, je crois, de mon voyage. Alors, j'ai parfois même du mal encore à en parler sans larmes, je dirais. J'arrive dans une petite ville et je tombe sur Christina. On commence à discuter. Je détonnais un peu quand même, hein, femme seule avec mon sac, tout
Oui,
ça.
oui.
Et donc, assez rapidement, on se rendait compte que j'ai déjeuné d'ailleurs. Et donc, ouais, on discute. Je lui explique que je vais chercher un endroit où dormir parce que c'est la fin de la journée. On va prendre un café, puis au bout d'un moment, elle me propose de venir chez elle. Donc, elle vivait avec ses parents et sa fille. Ses parents étaient divorcés, mais n'avaient pas les moyens de vivre séparément. Donc, le père dormait dans le salon et les trois femmes, donc les trois générations de femmes, dans une chambre. Et donc, la petite, je suis plus dans un lit de bébé, les deux, la mère et Christina, dans le même lit. Et elles ont fait de la place, elles ont poussé au maximum le lit pour que je puisse dormir par terre à côté d'elle. Et j'ai trouvé ça bouleversant parce que déjà, nous, en France, c'est très, moi la première, hein, c'est très facilement une excuse pour ne pas accueillir chez moi. C'est oh, non, non, ça va empiéter sur mon espace vital. Alors que ces femmes-là ne se sont pas posées la question. Et elles ont tenté à plusieurs reprises de migrer en France ou en Allemagne, notamment pour des raisons de santé, pour pouvoir soigner des problèmes la mère qui était malade. Et elles ont été expulsées à 2 reprises. Elles ont dormi dans la rue. Et de me dire, mais ces femmes qui n'ont pas vécu l'hospitalité chez nous et qui ont même fait face à la violence. À aucun moment, elles m'en ont voulu, elles m'ont fait payer ça et elles m'ont pas accueilli pour que moi je les accueille en retour. Hein. Il n'était pas du tout question de
C'était pas
ça.
intéressé.
Pas du tout. Et
C'était le.
c'était magnifique quand on me dit waouh, c'est admirable ton voyage. Franchement, je ne sais pas. Hein. Pour moi, ce qui est admirable, c'est ça. C'est
En
ces
fait,
femmes
ces
qui.
femmes, ces rencontres, ces relations finalement avec toutes ces personnes que vous avez découvertes sur la route et qui vous ont bien accueilli, parce que ça a été aussi une souffrance, parce que parfois vous avez eu droit à des noms et des noms qui étaient particulièrement violents vu l'état de fatigue aussi dans lequel vous étiez, parce que ça aussi vous l'avez vécu.
Ouais. Ça, c'était quelque chose que je cherchais aussi, c'était de me dire qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau, alors un peu artificielle pour la mienne, hein, parce qu'en vrai, j'avais une carte bleue, suffisait que je passe un coup de fil et pour que je me sorte de cette situation, mais d'être de la personne, enfin, qu'est-ce que ça fait d'être du côté de la personne qui demande? Et c'est vrai que quand je demandais l'hospitalité, c'était en fin de journée, donc je me sentais assez vulnérable, j'étais souvent fatiguée. Et ça m'a fait pas mal réfléchir à la façon dont on dit non. Il y a des noms bon, ça m'a peut-être frustrée et contrariée, mais ça ne m'a pas blessée parce que je les comprenais, parce qu'ils étaient dit avec de la bienveillance et du respect. Et en revanche, des noms qui m'ont vraiment fait pleurer et que j'ai trouvé très dur à encaisser. Non, on n'accueille pas les gens comme vous. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire les gens comme moi. Des noms dits avec une certaine violence. Et des gens d'église, hein, d'ailleurs. Les pires noms, je
Oui,
crois que c'était
ah
des gens d'église qui me les ont dit.
oui.
C'est peut-être encore plus dur, mais voilà. Et ça, j'ai trouvé. Enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir à moi, ma propre façon de répondre quand on me demande. Et c'est pas toujours simple, hein, de répondre aux demandes. Mais comment est-ce que je réponds avec le plus grand respect et bienveillance pour les personnes autour de moi?
Belle leçon. Alors, Aliénor, nous n'avons plus que 4 minutes.
Ah.
Ça passe très très vite. Bien sûr, il y a des lieux, vous traversez plein de lieux et il y en a des coups de cœur, notamment Monténégro, le parc national d'Urmitor, bon, la montagne, la beauté de ces montagnes et le désert de Néguev. 2 petits mots sur le désert de Néguev, parce que je crois que là, vraiment, vous avez fait une belle expérience de 3 semaines, en fait, de marche face à cette grandeur du désert.
Oui, quand c'était un peu compliqué, hein, la traversée de la Méditerranée. Quand je suis
Oui.
arrivée à Tel Aviv finalement en avion, je me suis dit, mais je peux pas, j'ai besoin de temps. Pour arriver à Jérusalem, je ne peux pas arriver tout de suite Tel Aviv, Jérusalem, c'est très proche. Donc, je suis redescendue à Eilat et de là, en bus, hein, et de Eilat, je suis remontée jusqu'à Jérusalem à pied, donc en passant par le désert. Déjà, c'était bouleversant parce que j'avais jamais été dans le désert de ma vie. Et surtout la nuit, le soir, en bivouaquant, il y a une forme d'immensité, de silence et d'éternité que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. J'ai eu le sentiment d'être sur une terre éternelle. Je me dis, mais c'est la terre des prophètes, c'est la terre de Jésus, Marie, Joseph quand il fut en Égypte. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose encore, ce rapport au temps peut-être, mais où je retrouvais ma place quelque part dans une forme d'éternité. Et c'était très fort. Et puis, accentué sûrement par le fait que c'était des journées de marche très dures. Donc, parce que je marchais parfois 40 km avec 2 litres de 2 jours d'eau sur moi.
Et oui.
Et peu de points d'eau. Donc, entre la solitude, la fatigue physique, la marche, la beauté des paysages, l'aridité, je me suis souvent perdue. Puis, il faisait nuit tôt. C'était vraiment une expérience personnelle très forte. Ouais.
Alors, une expérience très forte que vous n'avez pas ressentie dans la ville de Jérusalem, en revanche. Et donc, vous êtes allé au lac de Tibériade et là, vous avez fait une belle rencontre providentielle.
Oui. Ce qui a été mon dernier jour, mais je ne le savais pas encore en partant. Donc, je pars de la ville de Tibérias, je marche le long du lac de Tibériade et je tombe sur 5 pèlerins italiens, qui étaient un groupe un peu hors norme. Il y avait une personne aveugle, un homme plutôt très âgé pour un marcheur. Un autre qui m'a raconté ensuite qu'il avait un cancer depuis des années. Il disait, d'après les médecins, je devrais être mort depuis 10 ans. Et il a écrit un livre qui s'appelle Marcher guéri. Et en fait, on a terminé cette journée de marche ensemble. On a marché jusqu'à Tadga. Et j'ai trouvé ça. Et j'ai terminé là-bas, en fait, avec eux. Et j'ai trouvé ça magnifique. En fait, Jésus, pour moi, ce n'est pas Jérusalem, c'est la Galilée, c'est le lac de Tibériade. Jérusalem, c'est principalement le lieu de sa mort et de quelques événements de sa vie. Le lac de Tibériade, c'est le lieu de la vie, c'est là où il était, et entouré aussi, il n'était pas seul, et j'ai trouvé ça magnifique de moi terminer aussi entouré. Et je raconte souvent que la dernière présence de Jésus sur terre, c'est après sa résurrection, il est sur les bords du lac de Tibériade, il attend les disciples avec un feu, ils vont faire un barbecue de poisson. J'aime beaucoup que ce soit un temps de convivialité et d'amitié. Et moi, j'ai terminé aussi mon voyage avec mes 5 amis italiens et ils m'ont offert une pizza cachère, on a bu une bière. Et c'était aussi dans la convivialité et le partage. J'ai trouvé ça très beau, très loin de ce que j'avais imaginé, mais c'était parfait en fait.
C'est bien quand la vie nous étonne. Dernière question. Alors, vous avez trouvé. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé et 6 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste en 40 secondes.
En 40 secondes, je ne suis pas douée, hein, pour résumer. Vous disiez, Paul Andlar, la fin du pèlerinage, c'est quelque chose qui peut durer longtemps et je pense que c'est encore en route. C'est jamais tout à fait terminé et ça m'a pris du temps de réaliser pourquoi j'étais partie et pourquoi là-bas. Je crois que déjà, c'était très lié à ma quête intérieure, ma quête spirituelle, un besoin peut-être de comprendre qui est Dieu. Et j'ai eu besoin de me rapprocher de Jésus, homme, de sa vie humaine et de sa géographie pour comprendre en fait quel impact cette croyance, ce Dieu a eu sur ma vie.
C'est très beau, je suis désolée Aliénor, je suis obligée de vous interrompre, excusez-moi, mais malheureusement l'heure nous rattrape. Donc cher Paul Amblard et cher Aliénor Vidal de Lablage, donc je rappelle vos ouvrages Aube de Jérusalem, celui de Paul Amblard, donc édité chez Salvatore d'ailleurs, les deux. Et donc pour Aliénor Vidal de Lablage, Seul à pied vers Jérusalem. Deux très belles lectures pour cet été, chers auditeurs. Vraiment de dépaysement, de voyage. Donc procurez-vous vraiment rapidement. Un grand merci à Benoît, également à la technique. Et puis bien entendu à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Cette fois-ci, je pense que nous partirons en péninsule ibérique. À très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration dirigé par Pascal Morère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 17 juin 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.